Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous voici rassemblés pour cette émission sur Radio Présence et Radio La Pourdie Ratia. Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous allons commencer avec les sujets de vie diocésaine, puisque beaucoup d'événements ont eu lieu ce mois-ci. Alors déjà, le 6 avril, il y a eu une grande première, la journée des fiancés, journée diocésaine des fiancés à Pau. Je crois que vous avez été très content de cette journée, Monseigneur Ayé.
Oui, j'étais très content. Elle a été donc préparée, organisée, animée par la pastorale familiale du diocèse, en lien avec un mouvement qui s'appelle Communion Priscille et Aquila, qui a été fondé dans le diocèse d'Avignon d'abord, mais qui s'essaie maintenant toute la France, et qui consiste à proposer, en tout cas pour la préparation au mariage, des journées pour les fiancés qui soient un peu kérigmatiques. Je m'entends, cela signifie qu'on permet à ces couples qui viennent de des paroisses, qui se préparent au mariage, qui sont pas tous des grenouilles de bénitier, dont certains ne sont pas très proches même de l'Église et de la foi, mais qui demandent quand même à l'Église le sacrement de mariage, eh bien, c'est une journée qui a pour but de permettre la rencontre avec le Seigneur. En se disant que les exigences du mariage humain et chrétien, pour les assumer, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où ça n'est pas forcément très porteur, nécessite une grâce particulière qui est donnée dans le sacrement, et le sacrement qui nous met en lien avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et qui seul peut nous permettre de vivre à plein le sacrement de mariage dans toutes ses déclinaisons de fidélité, d'amour mutuel, d'ouverture à la vie, etc. Je pense que ça rentre un petit peu dans cette conception de l'annonce de l'Évangile dans un monde qui n'est plus chrétien, en se rappelant le mandat missionnaire du Christ. Jésus ne demande pas d'abord de faire la morale, et ne demande pas d'abord de sacramentaliser, il nous demande de faire des disciples. Aller dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples, puis baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, puis apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai prescrits. Dans un monde chrétien où on a déjà les codes, où on a déjà été évangélisé, sans doute on va très vite sur les exigences du mariage, qu'il ne faut pas pour autant occulter, mais il faut aussi avoir rencontré le Seigneur. Et cette journée, au fond, s'est passée un peu de cette manière, centrée essentiellement sur des témoignages de couples dans lesquels chacun peut se retrouver d'une manière ou d'une autre, quelle que soit son histoire, son statut social ou culturel, et sa foi, et des couples qui témoignent de la manière dont, ayant rencontré Jésus, eh bien, le sacrement de mariage a, d'une certaine manière, sauvé leur couple et les a sauvés. Voilà, c'est exactement ça le kérigme. C'est l'annonce du Christ mort et ressuscité qui est venu pour nous sauver.
Donc l'édition sera renouvelée,
réitérée, sans doute, l'année prochaine. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joie, il y a eu des retours, il y a eu un débriefing qui a été fait. Les fiancés, d'une manière très générale, sont très, 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 très satisfaits. Je crois que la note, c'est 8,5 sur 10. Et les couples parrains, qui étaient là aussi, parce qu'il y a des couples parrains qui sont venus d'un peu tout notre diocèse, ont vécu une belle expérience. Ils ont aussi été très heureux de pouvoir rencontrer, accompagner une petite équipe de fiancés qui n'étaient pas nécessairement d'ailleurs de leur paroisse pendant toute cette journée.
Le 7 avril dernier, n'ayant pas peur des mots, vous étiez dans le plus beau village du monde, à Espelette, pour l'AG, l'Assemblée Générale de l'HBB, l'Hospitalité Basco-Béarnaise, une belle journée.
Qui n'a pas manqué de piment. On a eu une très belle assemblée. Et ce qui était particulier au cours de cette assemblée de l'HBB, d'abord, c'est l'affluence, ils sont toujours très nombreux, à la messe, puis ensuite au repas. Et à l'Assemblée Générale et à la messe, nous avions la présence du recteur du sanctuaire de Lourdes, le père Dauban. Et c'était quand même un honneur qui était fait à notre HBB, mais je sais bien que ça montre aussi le lien qu'il y a entre l'HBB, l'Hospitalité Basco-Béarnaise, et le sanctuaire de Lourdes. On est sans doute les plus proches et les plus nombreux, donc ça explique pourquoi ils sont souvent requis pour le service.
Donc rendez-vous cette année le 15-16 septembre, c'est ça, pour le grand pèlerinage.
Voilà, de l'HBB, avec la journée diocésaine, sur le thème cette année, le troisième membre du message que la Sainte Vierge a donné à Sainte Bernadette, qui est « et qu'on y vienne en procession ». Donc insister sur le sens de la procession, et le père d'Aubin a dit « et je demande que les diocèses et les paroisses qui vont venir apportent leur bannière hein ». Il dit qu'il faut qu'il y ait des bannières pour manifester ces portions d'église qui viennent en procession à Lourdes.
Ah, c'est du 13 au 16 septembre.
Récemment, nous avons eu une visite assez particulière aussi. C'est le frère Paul-Adrien d'Ardemar, ce youtubeur connu des jeunes, qui est venu en chair et en os parler à nos jeunes. Vous avez assisté à un de ses topos.
Alors, il a donc sillonné un peu le diocèse. C'était organisé par la pastorale des jeunes. Et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau, d'ailleurs, parce que c'était quand même super bien organisé. Et en particulier, j'étais seulement à la clôture, donc à la cathédrale d'Oloron. Et là, c'est un jeune agriculteur fromager qui a fait les JMJ et qui a été très boosté par ces JMJ, qui a d'ailleurs réussi à mobiliser les agriculteurs de la Vallée d'Aspe pour organiser après la messe, où la cathédrale était quasi pleine, où il y avait au moins 150 jeunes. Il avait organisé dans la salle polyvalente de Gurmançon, donc aux portes de où lui-même est fromager, aux portes de d'Oloron, une tartiflette géante, si je puis dire, et qui a permis ensuite de très beaux échanges avec le frère Paul-Adrien. J'ai su d'ailleurs par quelqu'un qu'il a rencontré à Paris qu'il avait adoré son séjour dans notre diocèse et qu'il avait découvert le Pays Basque. Il était enchanté.
Voilà, parce qu'il est venu à Pau, à Bayonne et à Oloron.
Voilà.
Pouvez-vous nous dire ce qu'est Marthe et Marie? C'est une initiative de la DDEC, je crois.
Alors, c'est une initiative qui a été prise par le directeur du diocèse d'enseignement catholique avec son équipe, en particulier Francis Hérondonea, qui est chargé davantage à la direction diocésaine de la vie éducative et pastorale, qui est de proposer aux chefs d'établissement du premier et du second degré, sous tutelle diocésaine, une journée qui n'est pas en soi une journée de récollection, mais qui est une journée où on se met un peu à distance de son travail habituel de chef d'établissement, parce qu'il y a des réunions de chef d'établissement aussi pédagogiques et autres qui existent, pour réfléchir sur un thème qui les rejoint dans leurs responsabilités au niveau de la vie éducative et pastorale. Et donc c'est en se disant les tutelles qu'on organise ce genre de session, ce genre de réunion autour de leur charisme, le charisme de leur fondateur, pour leur chef d'établissement, donc d'une région donnée. Et donc peut-être les chefs d'établissement de sous tutelle du CESEN pouvaient être un peu les parents pauvres de registre. Et donc ce sont des très belles journées, on fait venir des intervenants. Moi j'y participe toute la journée, j'interviens d'ailleurs l'après-midi sur le thème. Et là c'était le thème de la pédagogie de Dieu et de la pédagogie du Christ. Et le matin, il y a donc eu une remarquable intervention de l'abbé Louis-Marie Rineau, recteur du séminaire, qui a d'ailleurs fait l'unanimité, je crois, et qui, avec beaucoup de simplicité, en partant de la pédagogie de Dieu, rejoignait concrètement les préoccupations pédagogiques des chefs d'établissement. Il y a eu de très beaux échanges, et il y a la messe au milieu, que nous avons célébrée à Notre-Dame du Refuge, parce que c'était à la Tchac que se passait cette rencontre. Et de fait, ça doit répondre à un vrai besoin, parce que les chefs d'établissement sont là. Or, c'est une journée de gratuité, c'est pas une journée où on va travailler un thème nécessaire pour la vie habituelle de nos établissements. Donc c'est quand même c'est rempli d'espérance, en tout cas.
C'est important pour les chefs d'établissement de se ressourcer régulièrement.
Oui, je crois.
En dehors du cadre de travail.
Et de leur proposer ça au niveau de l'action diocésaine. Donc je crois que c'est une belle initiative et qui en effet est plutôt performante.
Alors, dernier événement auquel vous avez assisté, c'était la soirée des communicants en paroisse. C'était le 2 mai dernier à Salis de Béarn. Vous avez donc assisté à cette soirée d'ailleurs, vous avez fait un petit topo aussi sur la communication. Et puis, il y a eu ensuite des ateliers. Vous avez assisté à un atelier, je crois.
Oui, c'est une grande première. Et je salue l'initiative du service de la communication, donc en particulier de vous, Violaine, qui est à l'origine de tout ça, puis avec toute l'équipe qui vous entoure. Mais c'était un très beau moment, parce que je crois que c'est important, en effet, que les communicants se rencontrent avec le service diocésain, mais aussi entre eux, Alors bon, c'était la première, donc ils étaient une trentaine, mais n'empêche que j'ai trouvé que c'était très participatif, que ça s'est passé dans une excellente ambiance, et j'ai senti en effet que ça répondait aussi à un besoin. Il y avait des prêtres avec leurs communicants de paroisse, et très divers et variés, hein, du Béarn et du Pays Basque. Il y avait un bel échantillon en tout cas, avec des ateliers très intéressants. Moi j'assistais à l'atelier sur...
Les supports de communication.
Voilà, les supports de communication, les outils. Il y avait un atelier pour les débutants qui était mené de main de maître par Alexandre, ici présent. Et puis, il y avait le responsable de communication du diocèse d'Aix, qui, lui, parlait du droit à l'image, du droit d'image. Ça a aussi beaucoup intéressé un certain nombre de participants.
Est-ce que la communication dans nos paroisses, et peut-être même dans le diocèse, n'est pas un peu un parent pauvre?
Ben, je crois qu'on en fait beaucoup de la communication, mais ce qui est important, c'est que la communication aide à constituer une communauté, quoi, entre les paroisses et avec le siège du diocèse. Hein. Mais c'est vrai que il faudrait que... Je crois qu'il y a quand même pas mal d'initiatives, hein, on le voit. Le fait que le service de la communication aussi soit allé rencontrer les prêtres dans les doyennés pour les sensibiliser aussi, avoir des communicants. Pas avoir peur d'avoir un site internet, mais il y a des paroisses qui l'ont, des newsletters même, c'est assez intéressant de découvrir ça. Donc on découvre que finalement, c'est pas si pauvre que ça.
Le 12
mais
mai,
c'est à encourager.
Le 12 mai d'ailleurs, c'est la journée mondiale des communications sociales. Je précise qu'à cette occasion, c'est l'occasion de découvrir la revue diocésaine Notre Église, puisqu'elle est en promotion pour cette occasion, donc journée mondiale des communications.
29 euros jusqu'au 30 juin.
Voilà, c'est ça.
Radio La Pourdi.
Monseigneur Ayen, nous continuons avec vous cette émission où nous parlons en ce moment, c'est le thème de l'année des vocations, avec un grand pèlerinage qui a commencé le 21 avril dernier et qui va se terminer bientôt. Est-ce que vous avez des nouvelles ou est-ce qu'ils en sont de ce pèlerinage?
Eh bien, écoutez, hier, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 mai. Donc hier, comme chaque lundi, au cours de ces 4 semaines de pèlerinage à travers le diocèse, c'était une journée de repos. Il y a quand même un lundi de repos pour que ceux qui font tout le pèlerinage ne soient pas complètement exténués à l'arrivée. Eh bien, je crois que ça se passe bien. D'abord, je regarde tous les soirs les photos de la journée. Donc c'est toujours variable, hein, on voit qu'il y a... Je crois que j'ai Thierry Mateille aussi, qui est le grand organisateur de ce pèlerinage, et qui marche tous les jours, lui, avec un autre qui prend les photos et qui s'occupe de service d'ordre. Il y a une voiture balai aussi, qui n'est pas toujours aussi nécessaire que tous les jours. Mais il me disait qu'il y avait entre eux... Il y a eu une fois un seul pèlerin. Il faut dire que le temps était exécrable pour les accompagner, mais c'est allé jusqu'à 70. Et il est très frappé d'abord de la joie des prêtres qui accueillent dans leur paroisse et qui accompagnent le tronçon aussi, et qui précède l'arrivée chez eux, qui accueillent les pèlerins. Et d'ailleurs, à l'arrivée, pour la messe ou pour la veillée de prière, il y a toujours beaucoup plus de paroissiens qui participent. Donc ça, c'est quand même une belle chose. Et il est très frappé de la ferveur de ceux qui se relayent d'étape en étape pour accompagner cette Vierge-là, à travers nos sentiers, nos chemins du Béarn, et bientôt ils sont dans le Pays Basque. Donc ça, c'est quand même c'est très beau. C'est une belle sensibilisation, finalement, autour de la question des vocations sacerdotales et religieuses, en tout cas de la prière pour les vocations du diocèse d'une manière globale. Peut-être qu'on peut regretter pour l'instant qu'il n'y ait pas tant de jeunes que ça qui participent, mais il faut dire qu'en semaine, ils travaillent. Mais peut-être que le week-end, les aumôneries de jeunes, de collèges, de lycées, d'étudiants, de professionnels pourraient peut-être faire un petit effort pour y participer davantage. De fait, le point d'arrivée, ce sera la cathédrale, à partir de Notre-Dame du Refuge, où là, on espère que les diocésains viendront beaucoup plus nombreux pour cette journée de clôture de l'année de la foi et de l'appel, pas seulement de clôture du pèlerinage des vocations, et qui devrait mobiliser beaucoup de monde, donc le samedi 18 mai, où nous marcherons de Notre-Dame du Refuge à Saint-Amand dans un premier temps, puis après avoir entendu quelques témoignages, nous continueront jusqu'à la cathédrale.
Alors j'ai vu que d'autres diocèses avaient pris cette initiative, peut-être qu'ils ont vu ce qui se passait dans notre diocèse, ça leur a donné des idées. J'ai vu qu'à Reims faisait la même chose.
Ah, bah c'est magnifique. Donc comme quoi, mais c'est peut-être l'Esprit Saint qui nous a soufflé en même temps les choses. Mais en tout cas, c'est une initiative qui a été prise avec l'équipe sans doute, mais d'abord par Thierry Mattei, diacre permanent, qui porte ce souci des vocations et qui fait partie d'ailleurs du service des vocations. Et ça fait 2 ans hein, qu'il a préparé ce pèlerinage qui aurait pu avoir lieu l'an dernier, mais qui était bien plus pertinent pour cette année.
Donc il va se terminer samedi 18 mai, ça sera diocèse en fait, et à cette occasion, donc à la messe de clôture à la cathédrale à 16h, vous allez confirmer 100 d'adultes.
Voilà, ça c'est quand même dans la dynamique catéchuménale qui se poursuit en France. Non seulement le nombre de catéchumènes adultes ne cesse de croître, mais le nombre de confirmés adultes aussi, je pense que cette année on arrive à un record quand même, avec 100 d'adultes qui demandent la confirmation et qui se sont préparés dans nos paroisses, et puis avec le service diocésain
du catéchuménat.
Nous serons 3 à confirmer. Ils sont très nombreux. Voilà, c'est la messe de clôture de l'année de la foi et de l'appel, donc c'est quand même très important pour cette vigile de Pentecôte, où nous prierons particulièrement l'Esprit Saint, de faire porter du fruit à toutes les initiatives que nous avons eues cette année qui sont à poursuivre dans le temps, et au cours de laquelle donc nous serons 3 évêques. J'ai demandé à Mgr Moller, mon prédécesseur, évêque émérite de Bayonne, Lescaris et Oloron, et à Mgr Quatennoz, évêque archevêque émérite d'Avignon, qui réside à Pontac, et qui ont accepté très gentiment de venir m'aider, me supporter, pour confirmer cette 100 d'adultes. Et aussi, au cours de cette messe, à la fin de la messe, il y aura l'envoi en mission du parcours Cléophas.
Donc c'est un parcours de formation voilà, en 2 ans.
Voilà, une école de disciples missionnaires, une école de formation de disciples missionnaires qui dure 2 ans et qui achève donc cette session de 2 ans et qui seront envoyés en mission.
Ils sont combien à avoir suivi le parcours ?
Petite trentaine, je pense, hein. Et j'en rencontre quelques-uns. J'en ai rencontré à Mourinx récemment pour la confirmation, un couple qui est très actif dans la paroisse et qui est bouleversé, transformé par ce cycle de formation Cléophas.
Le 4 mai, vous avez assisté aussi aux portes ouvertes du séminaire de Bayonne, le séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie. C'était important pour le séminaire de s'ouvrir, de montrer à quoi il ressemblait,
parce que
parfois
c'est important.
Les gens ne connaissent pas.
C'est important. C'est vrai que les séminaristes sont connus dans le diocèse parce qu'ils participent à la caravane des vocations régulièrement, à la rencontre des paroisses. Ils sont connus parce qu'ils participent aussi à beaucoup d'activités diocésaines, en particulier les journées organisées par les services de la catéchèse ou la passoire des jeunes, comme les JMJ. Donc ça, il y a une espèce de connaissance mutuelle. Le diocèse les connaît aussi parce que la plupart des intervenants au séminaire, des formateurs, hommes et femmes, sont des prêtres et des laïcs du diocèse. Donc il y a quand même déjà une présence. Mais c'est vrai que le séminaire, parce que c'est une école de formation aussi, n'est pas suffisamment connu de beaucoup de prêtres et de beaucoup de fidèles. C'est pourquoi ils organisent, en tout cas depuis 3 ans, je pense, des journées portes ouvertes. Je ne suis pas sûr, on en parlait récemment avec les séminaristes, que le 4 mai soit la meilleure date, parce que nous sommes déjà au mois de mai, donc les week-ends sont très chargés pour les familles, avec les communions, les récollections, les mariages qui commencent aussi dans les paroisses, ce qui fait qu'on n'a pas eu, je crois, cette année, beaucoup de prêtres qui ont pu venir. Des jeunes, il y en a eu, des enfants, il y en a eu, mais peut-être pas autant qu'on aurait pu en avoir aussi, des familles en particulier, donc peut-être qu'ils changeront un peu la date, mais en tout cas, il y a du monde tout le temps, et ce sont les séminaristes qui prennent en charge, en particulier c'est Marc Ezoua qui est le grand maître d'œuvre de cette journée, et qui lui a fait venir un tas de personnes qu'il rencontre, parce qu'ils sont très relationnels, nos séminaristes, et donc ils ont pas mal de contacts avec beaucoup de gens, donc ils les invitent à venir, et c'est assez sympathique. Moi j'ai participé à la messe au repas, et puis un petit peu l'après-midi, et j'étais très, très aimant impressionné par d'abord la disponibilité des séminaristes, leur témoignage qu'ils donnent, le service, et puis ensuite la présence des gens qui étaient très heureux de découvrir la maison, ce qui se fait au séminaire, les séminaristes dans leur jus.
Dans leur lieu de vie.
Voilà.
Le saint patron des prêtres sera dans notre diocèse, puisqu'il y aura une vénération des reliques du saint curé d'Ars, saint Jean-Marie Vianney. Alors c'est surtout à Pau, mais je crois que les reliques vont passer de paroisse en paroisse, peut-être au moins dans certaines.
Oui, c'est une très belle initiative là aussi de l'équipe de la chapelle d'adoration de Pau, qui date déjà depuis quelques temps, puisqu'ils avaient déjà fait une exposition autour de Carlo Acutis pour les jeunes, hein, c'était avant les JMJ. Et donc là, il y a une trilogie de 3 années où on fait venir d'abord cette année les reliques du cœur du curé d'Ars, hein, qui nous est prêté pendant quasiment un mois, du 27 mai au 20 juin. L'année prochaine, donc pour honorer les vocations sacerdotales, en cette année de la foi et de l'appel, l'année prochaine, ce sera Sainte Marguerite Marie à la Coque, de Paris le Monial, pour honorer la vocation à la vie consacrée, à la vie religieuse. Et puis l'année suivante, ce seront les reliques de Louis et Zélie Martin, pour honorer aussi la vocation au mariage chrétien. Donc c'est une belle initiative de Bertrand Écomard, donc diacre permanent, responsable de cette chapelle d'adoration, avec toute son équipe. Et donc ce sera surtout donc à Sainte-Thérèse, pour commencer, avec une somme d'activités, de conférences, de temps de prière, de vénération des reliques. Et ensuite, il y aura aussi un petit parcours de ces reliques dans le diocèse, qui viendront certainement à Bayonne aussi, hein, donc, et même au séminaire, je pense, ce qui serait logique. Donc on est très honorés de recevoir pendant autant de temps ces reliques insignes du cœur du saint curé d'Ars.
Donc on va continuer de prier pour les vocations, même après la clôture de l'année de la foi et de l'appel.
Tout à fait, voilà, oui, ça prolonge. Très important.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons notre évêque, Mgr Haillé. Alors, Mgr Haillé, le synode se poursuit, même si on en parle peu, peut-être dans le diocèse.
Oui, c'est sûr qu'on n'a pas été très bon, mais je crois aussi qu'on a été plus mobilisé par l'année de la foi et de l'appel, hein, qui fait que cette partie du synode, qui était évidemment moins importante que la première démarche de 2021, il y avait un petit retour en diocèse, pour lequel on a reçu une feuille de route fin décembre, et il fallait rendre le 15 avril. Donc je crois qu'on est beaucoup de diocèses à avoir été un peu pris par le temps. Et de fait, je reconnais que j'ai pas réussi non plus, hein, on en a parlé au bureau du Conseil littéral, mais j'ai pas senti l'enthousiasme pour continuer cette démarche qui était beaucoup plus circonscrite à partir du rapport de synthèse, fait choisir un point ou deux sur comment être une église missionnaire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, de manière synodale, hein, en n'oubliant pas que le thème du synode, c'est bien pour une église synodale, de point communion, participation, mission. Et donc, on avait déjà, au niveau international, noté que les prêtres avaient peu participé au synode. Et les jeunes aussi, hein, étaient moins mobilisés. Bon. C'est pourquoi le Saint-Père, pour relancer un peu la machine, si je puis dire, a organisé à Rome une assemblée synodale des curés. Et donc, il y avait des représentants des curés du monde entier. Et de France, il y avait 4 curés qui avaient été sélectionnés, si je puis dire, par la Conférence évêque de France pour participer à ces journées synodales qui ont eu lieu au début mai. Et à cette occasion, le pape a écrit une lettre à tous les curés du monde. Donc il a adressé d'abord aux curés qui participaient à cette assemblée, et il a ensuite publié pour tous les autres en leur disant « Soyez les missionnaires de la synodalité de l'Église ». Et cette lettre, au fond, elle recentre vraiment la démarche synodale qui était initiée et qui se clôturera par l'Assemblée d'octobre 2024. Et elle recentre vraiment l'intention du Saint-Père à travers cette démarche synodale. Pour une église synodale, et il insiste en effet pour dire « Mais la démarche, l'église ne sera pas synodale sans les curés. Et c'est vous qui êtes, d'une certaine manière, ceux qui, parce que le sacerdoce ministériel est au service du plein déploiement du sacerdoce baptismal, hein, du sacerdoce commun des fidèles, c'est vous qui devez être les missionnaires de cette synodalité dans l'église. » Et il dit des choses très, très belles qui redisent vraiment le cœur même de cette démarche. Je vous en cite un en passant. « Nous ne deviendrons jamais une église synodale missionnaire si des communautés paroissiales ne font pas de la participation de tous les baptisés à l'unique mission d'annoncer l'Évangile le trait caractéristique de leur vie. » Voyez. Et il dit aussi ça de manière très claire là. Je me permets de lire parce que ça me paraît très important. Les paroisses, à partir de leur structure et de l'organisation de leur vie, sont appelées à se concevoir avant tout au service de la mission que les fidèles accomplissent au sein de la société, dans la vie familiale et professionnelle, sans se concentrer exclusivement sur les activités qui se déroulent en elles et sur leurs besoins d'organisation. Et j'aime beaucoup cette phrase qui conclut là, où il dit « Il faut donc que les communautés paroissiales deviennent de plus en plus des lieux d'où les baptisés partent comme disciples missionnaires et vers où ils reviennent pleins de joie pour partager les merveilles opérées par le Seigneur à travers leur témoignage. » Alors je dirais que, sans doute, nous n'avons pas formalisé cette participation diocésaine à cette démarche synodale, mais il y a un groupe qui se réunit depuis plus d'un an, animé par Dominique Fontanet, qui est un laïque de Pau, Stéphanie Corr, qui est une laïque d'Anglette, et qui anime un groupe de réflexion auquel je participe, auquel participent des curés, et puis des fidèles de tous horizons, de toutes sensibilités, les uns dans la diaconie, des mouvements, des services, Cléophas, des jeunes, des vieux, des vieux, des plus anciens, et qui, au fond, accomplissent cette démarche synodale, parce que nous essayons de définir une vision missionnaire, de déterminer des priorités. D'ailleurs, il y a eu des enquêtes qui ont été faites auprès de beaucoup de curés par les membres de ce groupe, qui constitue à peu près 15-20 fidèles et prêtres. Et donc je pense que cette démarche synodale, on l'accomplit de cette manière-là, et qu'elle portera, j'espère, du fruit.
Donc c'est la transformation pastorale et missionnaire, ce groupe.
Voilà, transformation pastorale et missionnaire de l'Église.
Autre sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est le sujet de la fin de vie, puisque ce projet de loi va être débattu à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai. Alors il y a en ce moment une grande campagne de communication de la part de l'association Alliance Vita. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'ici au 27 mai pour sensibiliser à ce sujet de la fin de vie ?
Alors je pense en effet qu'il y a toujours cette nécessité peut-être d'entrer en contact avec les élus, les parlementaires, qui vont être aux premières loges pour l'étude, l'examen et le vote de ce projet de loi. Je pense que moi, j'ai rencontré tel ou tel député ou sénateur. Je pense que les fidèles aussi peuvent interpeller leurs parlementaires pour qu'ils soient vraiment les porte-voix. Parce qu'on sent bien, si vous voulez, que ce projet de fin de vie ne passera pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Il y a toujours les enquêtes d'opinion qui présentent tellement les choses de telle sorte qu'on puisse penser qu'il n'y a pas d'autre alternative à l'acharnement thérapeutique que l'Église condamne que l'euthanasie. Alors qu'il y a évidemment toute une campagne de soins palliatifs qui est à faire, qui est pourtant inscrite dans la loi, dans trois lois même, et qui est encore trop méconnue. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas que les soins palliatifs, au plan pas seulement médical, mais aussi moral, psychologique, peut soulager à 99% la douleur d'une personne en fin de vie ou dans une maladie en phase terminale, et avec un accompagnement humain qui permet d'accompagner la vie jusqu'au bout. Voilà. Donc une aide active à vivre et non pas une aide active à mourir. Voilà. Je pense que les soignants se mobilisent beaucoup, ont vraiment l'impression, et les médias s'en font l'écho, de ne pas avoir été entendus. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous touche, parce que je rencontrais une médecin en soins palliatifs qui est à Nienia, qui est le centre de soins palliatifs le plus important de la région. Il y a 20 lits, qui fait partie de la GBB d'ailleurs, et qui dit « mais c'est terrible, on n'est pas entendu, on n'a pas assez de personnel soignant, et on ne se rend pas compte du travail qui se fait et de la qualité de vie qui est donné aux personnes qui sont en fin de vie, dans des situations, en effet, souvent difficilement supportables, mais qui, quand ils sont dans une unité de soins palliatifs, ne demandent pas l'euthanasie. Alors c'est facile, quand on n'est pas confronté à cette question concrètement, de répondre au cours d'un micro-trottoir, « Ah oui, on est pour le soulagement de la souffrance. » Ben oui, mais il y a des soins palliatifs pour ça. Et l'acte létal, c'est donner la mort. Hein. On pourra maquiller par tous les mots qu'on voudra, de fraternité, d'aide à mourir. On ne pourra pas nier qu'il s'agit bien d'un suicide assisté ou d'une euthanasie active. Donc il y a une sensibilisation de l'opinion qui est certainement à faire, et je salue toutes les associations qui essaient de mobiliser autant qu'ils le peuvent l'opinion publique, comme Alliance Vita en particulier.
La situation des chrétiens dans la bande de Gaza notamment est dramatique. À l'occasion de la journée du 5 mai de prière, donc en soutien aux chrétiens d'Orient, un cri d'alarme a été lancé par les communautés chrétiennes qui sont à Gaza, en fait, pour dire qu'il y aura bientôt plus de chrétiens en Palestine.
C'est vrai, parce qu'ils sont actuellement pour la plupart réfugiés dans cette bande de Gaza, qui est quand même sous les bombes. Hein. Et on n'a pas l'impression qu'on soit dans une perspective d'apaisement, mais on a l'impression qu'il y a une escalade de la violence qui est encore en train de se préparer. Donc voilà, c'est quand même très préoccupant. Donc nous devons prier pour ces chrétiens, les aider de toute manière. Il y a des organisations humanitaires qui essaient de faire passer des convois parce qu'ils sont aussi réduits, parfois même à la famine. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le 20 novembre, je crois, enfin je ne sais plus exactement la date précise, on accueillera ici la journée des témoins, ou la nuit des témoins. La nuit des témoins de l'AED, hein, l'aide à l'église en détresse, qui est aussi très très présente, en particulier en ce moment au Moyen-Orient.
On aura l'occasion d'en reparler. On va changer de continent, on va partir en Afrique, puisque nous sommes jumelés avec le diocèse de Kara, au Togo, et nous avons la joie d'accueillir son évêque, Monseigneur Longa. Je crois que ce sera fin mai.
Voilà, du 21-28 mai, parce que c'est vrai que les années du Covid ont un petit peu bloqué les relations entre notre diocèse et le diocèse de Kara, au Togo, dont nous avons d'ailleurs deux prêtres dans notre diocèse, l'abbé Joseph Koldé Goulou, qui est le curé de Soumoulou, et l'abbé Amédée Badaka, qui est prêtre coopérateur au Christ Sauveur de Pau, et qui vient d'ailleurs de soutenir sa thèse de doctorat sur Saint-Augustin. Et donc, on salue les bons résultats qu'il a obtenus, la mention bien à cette thèse qu'il a soutenue à Toulouse, à l'Institut catholique. Donc nous sommes heureux de relancer ça, et comme le dernier voyage, c'est moi qui l'ai accompli à Kara, avec toute l'équipe là, de jumelage, eh bien nous avons invité Monsieur Duncan Longa à relancer les relations, et il viendra en effet dans le diocèse, sans doute accompagné par un prêtre qui connaît déjà le diocèse et qui est le responsable de l'équipe de jumelage du côté de Kara. Et donc nous lui proposons, en ce moment il y a toute l'équipe là, donc Victor Gomez, Nicole Boulet, Patricia Condamine, Elodie, elle s'appelait Ardeuil, mais je ne sais plus son nom, etc. Toute une petite équipe qui prépare ce séjour de Monseigneur
Longa.
Donc à Longa, chez nous.
Donc il viendra à Soumoulou et il va venir aussi à Bayonne.
Oui, il viendra à Bayonne, mais il célébrera la messe le dimanche, il la célébrera à Soumoulou. Du fait de la présence de Joseph Koldé Egoulou.
Un grand merci à vous, Monseigneur Marc Caillé. Merci à Violaine Ricourt-Dumas. Et cette émission est à retrouver sur le site internet de Radio Présence Lourdes Pyrénées et de Radio Lapourdie. Merci à tous.